Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut à tous, quatrième jour de compétition et première médaille d'or pour l'équipe de France. C'est Quentin Fillon-Maillet qui nous a régalé sur l'individuel en biathlon. Et plus tôt dans la journée, Tess Ledeux a elle aussi rapporté une médaille d'argent pour le coup et une déception pour celle qui visait le plus beau métal. On va analyser tout ça avec nos consultants du jour, Loïs Haber et Clémence Grimal, qui ont tous les deux commenté ces épreuves sur Eurosport. Salut à tous.
Salut.
Évidemment, nous débuterons avec ce couronnement de Quentin Fillon-Maillet. Nous verrons comment il a su s'imposer malgré deux fautes au tir. Si lui a brillé, ce n'est pas le cas des autres tricolores et notamment d'Emilien Jacquelin. Déjà en difficulté lors du relais mixte, Jacquelin va devoir changer des choses s'il veut se relever. Nous verrons quoi. Et enfin, Test le 2 est au programme de la troisième partie. La Française a bien posé son fameux double cork 1620 en finale du Big Air. Le problème, c'est que sa rivale Elin Gu aussi, et ça, c'était moins prévu. Voilà, vous pourrez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Castbox et les meilleurs extraits en vidéo sur eurosport.fr. Allez, l'heure olympique, c'est parti.
Il est monumental.
Exceptionnel en vitesse de ski. Sur les skis. 18 sur 20 au pas de tir. 31 secondes de mieux que Johannes Bö à score égal hein, face aux cibles. Le roi Quentin, aujourd'hui, à Sanjiaku.
La première médaille d'or de l'équipe de France est donc venue du biathlon de Quentin Fillon-Maillet sur l'individuel. Pour en parler, on accueille Loïs Haber, notre consultant, ainsi que Julien Chesnay et Laurent Vergne. Tu as commenté avec Gilles Delaposta, Loïs. Comment tu as senti les choses venir ? Pas facile à lire cette course. Hein.
Ouais, elle n'est pas facile à dire. Vous savez, c'est une course qui est longue, qui dure quasiment, enfin, on n'est pas loin de l'heure de course hein, avec le tir inclus, que les top athlètes avaient des dossards, des petits dossards. Donc, il y a un temps d'attente parce que je résume, mais aujourd'hui, Quentin fait le meilleur temps de ski. Il atomise la course sur les skis. Physiquement, il était au-dessus du lot. Il met pas loin d'une trentaine de secondes à Johannes Bö qui est déjà au-dessus du lot. Donc, vraiment, il avait une marge énorme de ce côté-là. Mais après, il ne s'est pas simplifié la tâche quand même parce qu'il a tiré entre guillemets qu'à 18. C'est un tir assez correct vu les conditions de tir qui ne sont pas évidentes avec le vent, avec le froid, avec toutes les conditions qu'on connaît. Mais 18, ça veut dire que tous ceux qui sont à moins de 2 minutes de lui en ski peuvent potentiellement le battre. Donc ça fait un sacré paquet de clients. Au final, il n'y en a pas eu tant que ça parce qu'il a vraiment tué la course. Et on en compte 14, mais dans les 14 qui pouvaient aller le chercher avec 20 sur 20, personne n'a fait 20 sur 20, mais il y a eu un temps d'attente assez long derrière.
C'est vrai qu'on a, nous, pour rien de cacher, hein, dans la rédaction, quand on a vu sa deuxième faute à 18 sur 20 ou au troisième tir, on s'est dit, bon, c'est foutu pour l'or, ça allait être compliqué quand même. Et malgré tout, comme tu dis, c'est le ski qui a fait la différence. Julien ?
Oui, c'est le ski qui a fait la différence, 21 secondes d'avance sur Johannes Bö. Pourtant, quand on regarde le premier inter, il avait déjà 7 secondes de retard après 900 mètres. Donc, on commençait peut-être à se dire il y a peut-être des problèmes de farte ou il a un départ prudent. Et c'était vraiment l'option de départ prudent parce que à la fin du premier tour, il était, je crois, 6e ou 7e temps de ski à peut-être une quinzaine de secondes de Johannes. Mais après, les trois tours suivants, c'est lui qui avait le meilleur temps. Et la dernière boucle, il fait le même temps que Johannes à un dixième près. Donc, c'est vraiment là qu'il allait aller chercher le titre, sachant qu'ils sont 18 au total à avoir fait deux fautes également. Et il y en a 7 qui ont fait, je crois… Non, il y en a 2 qui ont fait le 20 sur 20 et 7 qui ont tiré à 19. Donc là, c'est vraiment lui, clairement, qui c'est sur les skis qu'il a fait la différence. Il n'y a pas photo, quoi.
Laurent, tu sentais qu'il allait tenir sur le dernier tour. On a eu un petit doute quand même à se dire, il a peut-être tout donné avant. Est-ce qu'il va réussir à avoir encore un peu de jus pour aller jusqu'au bout et gagner ? Finalement, ça a été le cas.
C'est toujours difficile de savoir, notamment ce que disait Julien sur les départs, qui part un peu plus prudemment, ou est-ce qu'on part prudemment, ou est-ce qu'on est moins bien. Et c'est vrai que Quentin Fillon-Maillet a creusé a fait la différence sur le temps de ski entre le troisième et le quatrième tiers, je crois, si je ne me trompe pas. Et là, il a vraiment produit une accélération. Donc, on pouvait se demander, oui, s'il allait tenir. Et il a tenu. Il a même, je crois, repris encore un petit peu de temps sur la fin, notamment à Johannes Bö. Ouais, sur le déroulement de la course, mes camarades ont tout dit. Mais moi, ce que je vais retenir, c'est que on a déjà eu des champions olympiques chez les hommes ou chez les femmes, et même avant Martin Fourcade. Mais pour moi, c'est la première fois, en dehors de Martin Fourcade, qu'on a un champion olympique en individuel, alors que c'est quelqu'un qui arrivait avec un statut de favori, un statut de leader de la Coupe du Monde, quelqu'un qui, Martin l'a dit sur Eurosport, qui avait annoncé depuis 2 ans que son objectif, c'était d'être champion olympique. Donc, il avait un statut et une ambition à assumer, il l'a fait. C'est vrai qu'une médaille d'or, c'est une médaille d'or, mais on a vu Vincent Jay à Vancouver, ou Vincent Defrane, Florence Bavrel, c'était... Je ne dirais pas que c'était forcément des surprises colossales, mais il n'avait pas le statut d'un Martin Fourcade ou même d'un Quentin Fillon-Maillet aujourd'hui. Et moi, c'est ce qui m'impressionne le plus, honnêtement. Il y a toujours un doute. C'est la première fois que Quentin il arrive sur un événement comme ça, sur les Jeux, avec une étiquette, une pancarte comme ça. Et je pense qu'on ne sait jamais, même lui, comment il allait le gérer une fois qu'on est confronté à l'événement. Et c'est ce qui m'impressionne le plus, au-delà de son temps de ski qui a été absolument monstrueux, mais la façon dont il gère ses jeux depuis le début, je suis vraiment très très impressionné.
C'est pas en plus. Vas-y Loïs.
Je suis totalement d'accord avec ça. C'est vrai que cette année il coche toutes les cases. Hein. Il a une avance phénoménale sur le classement général. Il a pas pris d'impasse. Tous les autres top athlètes ont fait des impasses. On quelque part en abandonner ce classement général pour se concentrer sur les Jeux. Et c'est vrai que c'était à double tranchant, hein, parce qu'il a moins de récup que les autres, mais bon, il a su rester sur le rythme, et on peut même se rendre compte qu'il a augmenté son niveau, en fait, tout simplement. Il va plus vite que ce qu'il allait sur le mois de janvier.
Et j'aimerais aussi ajouter une petite chose, c'est qu'il élargit sa palette, en fait, en gagnant cette indive. C'était le seul format qu'il avait jamais remporté sur une Coupe du Monde. Il avait 2 victoires en sprint, 2 victoires en master et 7 en poursuite. Cette saison, il n'avait pas été brillant sur ce format-là. Pas de top 5. Je crois qu'il avait fait 8e et 20e. Et là, il gagne cette course qu'il n'avait jamais remportée auparavant au meilleur des moments. Et ça, c'est en plus de bon augure pour la suite, parce que le meilleur est censé rester à venir pour lui sur ces Jeux.
Et ça, c'est remarquable, ça, de jamais avoir remporté d'individuel et de remporter celui des Jeux. C'est quand même quelque chose à souligner. Pour prolonger ce que tu dis, Julien, Martin Fourcade l'a dit au micro de Géraldine Weber, c'est le plus fort. Il est favori maintenant pour les 4 prochaines courses. C'est aussi votre avis, messieurs ?
Ouais, Martin a aussi dit que voilà, c'est les Jeux et c'est du biathlon et ça peut très, très, très vite tourner. Le gros avantage pour moi, pour Quentin Fillon-Maillet aujourd'hui, c'est que ces Jeux, ils sont déjà réussi, et pas qu'un peu. Il a un titre en individuel, c'était son objectif. Il le décroche sur, effectivement, peut-être l'épreuve où on l'attendait le moins. Et en plus, il a une médaille d'argent en relais. Donc, quoi qu'il arrive, ces Jeux sont fantastiques et ils peuvent devenir peut-être historiques. Donc, c'est quand même une situation très confortable. Ce n'est pas le cas de tout le monde dans cette équipe de France. On en reparlera après. Mais Martin a aussi dit, il faut voir comment il va gérer ce titre. C'est quelque chose de très énorme qui lui tombe dessus. L'avantage qu'il a, c'est que le sprint est que dans quelques jours. Il a quelques temps pour digérer ça, 72 heures, je crois. Donc peut-être que ça peut l'aider, mais on ne va pas rêver peut-être d'un destin à la Björn Dahlen à Salt Lake City avec 4 médailles d'or. Mais
pourquoi pas ? Et pourquoi pas ?
Mais après pourquoi tout, pas. Pourquoi pas, oui.
Loïs, qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Moi, je pense qu'il a plusieurs avantages. Le premier, c'est déjà sa vitesse de déplacement à ski qui le met à l'abri de beaucoup d'athlètes. Hein. Avec une vitesse de déplacement à ski comme ça, s'il tire à 9 ou à 10, il est sûr d'avoir une médaille, enfin quasi sûr d'avoir une médaille. Et l'autre gros avantage, on l'a dit en début de discussion, c'est que ce n'est pas une surprise, en fait. C'est dans ses plans. Donc, si vous voulez, d'avoir gagné aujourd'hui, je ne pense pas qu'il ne va pas décompenser derrière, il ne va pas se relâcher, parce que c'est pas normal, hein, on n'est pas dans la normalité. Mais voilà, il a tout construit pour. Ça fait 2 ans qu'il l'a intellectualisé, cette course, cette victoire. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il ne soit pas venu uniquement pour ça. Et je pense qu'il va rester droit dans ses bottes. Et c'est pas ce titre qui va lui faire perdre la tête, qui va le faire sortir de ses JO. Non, il est venu pour plus que ça.
On espère en tout cas. On croise les doigts pour la suite, en espérant voir Quentin Fillon-Maillet, voir d'autres, hein, on va en discuter dans la deuxième partie, à rapporter d'autres breloques. Si Quentin Fillon-Maillet a décroché l'or en individuel, en revanche, ça s'est moins bien passé pour ses camarades de l'équipe de France. Avant d'évoquer les conséquences que ça peut avoir, la suite du programme, Julien, rappelle-nous les classements des différents Français dans cet individuel.
Alors, le deuxième Français, c'est Fabien Claude, qui est 9e avec deux fautes comme Quentin Fillon-Maillet. On a ensuite Simon Détieux qui fait 17e avec 3 fautes. Et très, très loin, malheureusement, Emilien Jacquelin qui est 62e avec 7 fautes, 7 minutes 44 donc de Quentin Fillon-Maillet.
Emilien Jacquelin qui a déjà eu du mal sur le relais mixte, Loïs. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Emilien? C'est difficile de se régler. On l'a vu au tir, il a même repris du temps pour souffler, pour essayer de se remettre à l'endroit. C'est des débuts de jeu qui sont très difficiles pour lui.
Emilien, ce qui est paradoxal, c'est qu'il a eu une grosse blessure cet été et que le plan, c'était plus de revenir au JO, d'utiliser le début de saison pour se repréparer, pour se mettre en route. Et en fait, il a été prêt très tôt et peut-être un peu trop tôt. Il a voulu porter un statut de leader d'équipe à juste titre, hein, parce qu'il le méritait. Conjointement avec Quentin Fillon-Maillet. Et c'est vrai que depuis le Grand Bornand où il a été exceptionnel, ce retour sur le mois de janvier, on voit que l'ombre de lui-même, quoi. Tant physiquement, on voit qu'il est capable de faire des belles choses, comme ça a été le cas sur son temps de ski au début de course aujourd'hui ou sur le relais mix. Il est capable d'aller très vite, surtout sur une piste qui lui convient bien. Mais sur le tir, en fait, c'est pas un calculateur. C'est quelqu'un qui a besoin de jouer sur l'instinct. On le voit, il s'installe, même quand il joue la gagne, même quand il est quasi sûr de gagner, il a besoin de tirer en 15 secondes, de lâcher les chevaux complets. Et là, quand on le voit comme aujourd'hui sur le tir debout, il s'installe, il se reprend une fois, deux fois, trois fois, chez lui, ça se finit toujours mal. C'est pas le cas de plein d'athlètes, hein. Il y en a qui se reprennent et qui viennent qui mettent les balles à force de se reprendre. Mais lui, dès qu'il sort de son schéma instinctif, c'est compliqué. Et le problème, c'est que ça va être assez dur de recréer cette dynamique instinctive maintenant que les JO sont lancés. Et que même s'il a une médaille d'argent sur le premier relais, sa course n'était pas splendide. En gros, on peut dire qu'il a, à son actif, il a quand même deux petits échecs. Et ça va être dur de switcher d'un mode à l'autre maintenant que les jeux sont lancés, je pense.
Est-ce que les prochaines courses, quand même, peuvent l'aider à rebondir?
De toute manière, il n'a pas le choix. Oui, ça peut l'aider à rebondir.
Plus lui convenir, je veux dire.
Ouais, peut-être de tomber sur des formats qui lui conviennent mieux. Le problème de l'individuel, c'est que c'est une course face à soi-même. Voilà, il faut faire abstraction de tout ce qui se passe autour. C'est vraiment trouver la bonne allure, la pulsation cardiaque près pour ne pas se mettre dans le rouge, mais pour ne pas perdre de temps non plus, pour essayer de trouver le meilleur rendement. C'est une course d'endurance, mais avec une énorme recherche d'efficacité. Et après, quand il va se retrouver sur des courses à confrontation, ça va être vraiment différent parce que là, il va oublier tout ça. Il va oublier tout ça et potentiellement, on peut espérer qu'il soit mieux placé. Le problème, c'est que son format favori, c'est la poursuite.
Il faut déjà faire un bon sprint.
Il faut déjà faire un bon sprint. Et ça, c'est une course individuelle. Donc, s'il est mal placé au sprint, il ne pourra pas jouer la poursuite.
Comment tu le vois, Laurent, toi?
J'ai une question pour Loïs. C'est surtout sur le tir debout qu'il a un très gros problème parce qu'on l'a vu, enfin, sauf si je me trompe, mais sur le relais, il tire très bien sur le coucher. Et aujourd'hui, il fait 5 sur 5, je crois, sur son premier coucher. Il me semble.
Alors, oui,
c'est en vraiment. Fait,
pardon, excuse-moi, je te laisse.
Non, vas-y. Non,
je voulais savoir si c'était un problème technique. Le tir couché, c'est un vrai tir technique. C'est-à-dire, on empile les choses, il faut. La cible fait 4 cm, donc c'est à peu près ça. C'est un vrai tir technique, on n'est pas loin d'un tir de précision. Donc là, il suffit de construire son schéma. Chronologiquement, il faut bien empiler les cases. Après, de tir debout, c'est beaucoup moins de technique, c'est beaucoup plus d'instinct. Il faut pas rater sa chance, quoi. La cible, la carabine bouge beaucoup autour de la cible. À l'effort, on n'arrive pas à la stabiliser, il y a trop de mouvements. Donc, il faut être hyper instinctif pour synchroniser le lâcher avec le court instant où la carabine passe en face de la cible. Et là, il manque de confiance et du coup, il n'arrive pas à synchroniser ces deux mouvements.
Et quand un biathlète manque de confiance comme ça, notamment sur un tir debout, qu'est-ce qui peut l'en sortir? Est-ce que ça passe par des discussions avec le coach, avec l'entraîneur du tir? Qu'est-ce qu'un entraîneur du tir peut dire dans ces cas-là pour... Alors là, en plus, effectivement, on n'est pas sur la durée d'une saison, tu as quelques jours pour régler le problème.
Eh ben, là, ça dépend des athlètes. Après, vraiment, ils ne fonctionnent pas tous pareil. Il y en a, il faut presque leur enlever la carabine. En fait, ça, c'est un truc qui est assez classique, de dire bah, tu ne tires pas pendant 2 jours et comme ça, tu vas oublier ce que tu fais en ce moment et potentiellement, tu peux retomber sur tes bases habituelles. Il y en a qui, au contraire, ont besoin de beaucoup tirer. C'est des caractères qu'on voit dans d'autres sports. Hein. C'est l'histoire de Nadal et Federer. Il y en a qui ont besoin de beaucoup tirer. Moi, je me souviens un truc que je faisais faire à certains athlètes qui marchaient bien, c'est venir faire les séances, mais ils ne tirent pas. Ils font tout en simulation, coup à sec. Ce qui fait qu'ils n'ont plus la peur de lâcher la balle et ils retombent sur des standards. Ils commencent à reprendre confiance. Mais voilà, le but final, c'est d'arriver à reprendre confiance pour oser déplacer la carabine et synchroniser le lâcher au moment où la carabine passe en face. Mais chacun a ses leviers. Il y en a qui ont besoin de tirer et il y en a, au contraire, il vaut mieux leur enlever la carabine.
Et Emilien, il serait plutôt de quel genre pour ce que tu en sais ?
Moi, je pense qu'il vaut mieux lui enlever la carabine. Enfin, lui enlever la carabine ou faire des simulations ou faire des jeux. En fait, c'est sortir de ce dossard des JO. C'est lui dire, allez, ça paraît débile, hein, mais c'est une veille de JO de dire, bah, allez, tu tires 30 balles et moi, je veux que tu les tires le plus vite possible. Joue, fais-toi plaisir. Je veux que tu sortes avec la banane, je veux que tu retrouves ton jeu, parce qu'en fait, c'est ça qui est paradoxal dans le biathlon, c'est qu'on calcule tout, de la pulse cardiaque jusqu'à la vitesse de tir, mais en fait, c'est juste un jeu. C'est un jeu d'adresse, tout simplement, et il faut remettre du jeu dans tout ce qu'il fait.
Intéressant de voir comment on peut essayer de se remettre à l'endroit. On parle beaucoup de la technique, mais les conditions, ça a un peu évolué quand même, parce qu'au début, on parlait beaucoup du vent. Ça c'est quelque chose qui peut l'avoir perturbé quelque peu.
Alors, elles étaient parfaites, a priori, les conditions ce soir. Il n'y avait pas ou peu de vent, d'après ce que j'ai compris. Il faisait
elles
bon.
Sont pas ouais. Elles ne sont pas hyper évidentes dans le sens où elles sont parfaites pour le site des Jeux Olympiques. Parce que ça a été tellement catastrophique le mois d'avant. C'est un site, ça fait 2 ans qu'ils se préparent parce qu'ils n'y sont jamais allés. Et c'est réputé comme le site le plus vanté de l'histoire du biathlon. Donc là, on est retombé sur des conditions acceptables, plus qu'acceptables. Après, ce qui gêne un peu Emilien, je pense, c'est que ça fait une semaine qu'ils sont là-bas et qu'ils s'entraînent dans du vent. Et dans du vent, il n'arrive pas à mettre son schéma en place où il se lâche. En fait, il est sans arrêt à reprendre chaque balle, à se bloquer sur chaque balle, à attendre la rafale. Et il n'arrive pas à avoir d'enchaînement en classique. Donc, à mon avis, ça fait une bonne semaine qu'il n'a pas répété d'enchaînement rapide où il peut jouer parce qu'il était gêné par le vent. Et là, quand il met le dossard, il restitue ce qu'il a fait dans les dernières semaines, un tir contrôlé, intellectualisé, sur lequel il n'est pas du tout à l'aise.
J'avais une dernière question pour toi, Loïs. Je commence à voir circuler sur Twitter, tu sais comment ça marche, que Emilien, il n'est pas bien, il est même catastrophique au tir et qu'il faudrait peut-être l'enlever du relais et mettre en Antonin, par exemple, Guigona. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense que c'est beaucoup trop tôt. Et puis, il reste quand même deux courses indiff, puisque la Mastart sera après le relais. Ça se décidera après l'enchaînement sprint-poursuite, ça, de toute façon.
Ouais, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour l'officialiser, mais en tout cas, c'est sûr que c'est une réflexion qui est en cours chez les coachs, peut-être un petit coin au fond de la tête, parce que chaque course compte, qu'ils ont un gars qui est capable de... En fait, on est dans une position qui est assez sympa pour le relais, c'est qu'il faut ramener le relais à la bagarre. Et après, Quentin fera la diff. Enfin, on peut s'y mettre un peu comme à l'époque de Martin Fourcade. Ouais. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas lui ramener le relais à 1 minute. Et il va pas falloir lui mettre des relayeurs avant qu'il planque le relais. Et historiquement, Emilien a réussi des très beaux relais et c'est pas le seul à en avoir raté, mais il en a raté quelques-uns quand même. Il en a planté quelques-uns dans les 2-3 dernières années. Donc voilà, déjà, l'historique des relais parle pas forcément pour lui. C'est trop tôt dans le sens où il faut lui laisser faire ce qu'il est venu faire, c'est-à-dire un sprint poursuite et une mastart, et à partir de là ils décideront. Mais après, ce qui joue encore pas en sa faveur, c'est que derrière il y a un cinquième athlète qui est vraiment solide. C'est un bon choix quoi, hein. Antonin Guigona, c'est un gars qui fait 4e de la dernière Coupe du Monde, donc ouais, je pense qu'ils prendront pas de risque de ce côté-là s'ils voient qu'Emilien continue sur cette spirale plutôt négative.
Julien, toi qui suis la Coupe du Monde de biathlon sur Eurosport, comment tu vois les choses se faire ? On l'a dit, sprint, voire poursuite, c'est les courses fortes pour Emilien Jacquelin. Tu le vois rebondir ?
On peut espérer que par la force des choses, avec le format assez rapide de la poursuite et du sprint, qu'il soit contraint de libérer son tir quoi qu'il arrive et que ça puisse amorcer un déclic. Au-delà du tir, physiquement parlant, aujourd'hui, il était plutôt moyen, voire en deçà de ce qu'il a pu montrer en début de saison, 14e temps de ski. Après, il se relâche pas mal quand même dans le dernier tour, vu qu'il n'avait plus grand-chose à jouer. Je crois qu'il doit faire 36e temps de ski du dernier tour à 45 secondes de Fillon Maillet. Donc, il n'est pas non plus totalement largué. Je pense que physiquement, il est quand même dans le coup. Donc, si ça recommence à sourire sur... au tir, et on sait qu'il est capable de tirer très vite, je ne serais pas du tout étonné de le voir sur le podium, soit en poursuite, soit au sprint avant ça. Donc j'attends de voir avant de m'inquiéter vraiment pour lui.
Super, eh bien, écoutez, on suivra ça. Merci messieurs d'avoir éclairé nos lanternes sur le cas Emilien Jacquelin. On passe tout de suite à la séquence suivante. On attendait l'or pour Tess Ledeux, elle qui a remporté deux médailles d'or aux X Games récemment. Oui, mais voilà, la chinoise Eileen Gu avait caché son jeu et elle a su sortir les bons runs au bon moment pour venir coiffer la skieuse de la Plagne. Notre consultante Clémence Grimal est là pour en parler aux côtés de Laurent Vergne et Julien Chesnay. Clémence, est-ce que la déception est digérée? On t'a vu un peu peiner quand même dans la nuit.
Ouais, c'est bon, j'ai eu quelques heures de sommeil pour digérer, ça va beaucoup mieux maintenant.
Alors, est-ce que tu as compris un petit peu, parce que nous, on était tous aussi un petit peu sur la retenue, on se disait, qu'est-ce qu'il a manqué? Est-ce que toi, tu as pu analyser tout ça et comprendre pourquoi il n'y avait pas eu le fameux or?
Oui, bien sûr, j'ai eu justement un petit peu le juge au téléphone, un petit peu Greg qui m'ont expliqué leur point de vue. Alors, c'est vrai qu'il est à entendre aussi. Après, voilà, moi, j'ai l'esprit un peu patriote. J'avais envie que ce soit Tess qui gagne. Mais bon, c'est comme ça. C'est un sport à jugement. C'était très serré. Donc, ça se joue vraiment sur des tout petits détails.
On a vu, hein, elle a sorti son double cork 1620, le fameux tricks qu'on disait, si elle sort ce tricks-là, la médaille d'or est assurée. Mais Eileen Gu, elle avait caché son jeu parce qu'elle avait préparé aussi, elle, ce fameux double cork 1620. C'est ça, finalement, l'énorme surprise de ce concours de billard.
Ouais, exactement. C'est sûr qu'on n'attendait pas du tout Eileen Gu là-dessus. Et quand on a vu Tess poser un double cork 1620 et surtout, en toute première figure, le switch 1440, eh ben, les deux figures étaient vraiment parfaites. Et avec les scores qu'elle a eu, c'est vrai qu'on ne s'imaginait pas vraiment Tess perdre l'or. Et la chinoise vraiment nous a surprise. Elle a fait deux énormes sauts aussi. Donc voilà, c'est le jeu.
À t'écouter, c'est finalement plus la chinoise qui a gagné que Tess qui a perdu. Il n'y a pas de débat là-dessus.
Ou ouais. Si
encore un peu.
Oui, on peut dire ça comme ça aussi. Après, c'est vrai que voilà, je pense qu'aujourd'hui, si la chinoise a réussi à sortir un double cork 1620, c'est parce que Tess l'avait mis en compétition déjà il y a deux semaines aux X Games. Et voilà, et je pense que sans ça, peut-être que la chinoise n'aurait pas eu non plus ça aurait pas été nécessaire en tout cas pour elle de venir poser cette figure. Et je pense que Tess aujourd'hui, elle a tout gagné, elle a tout gagné pour elle en tout cas et pour nous, parce qu'elle nous a prouvé que vraiment c'était une athlète extraordinaire par sa réaction aussi juste après, une petite heure seulement après les résultats. Donc voilà, la chinoise a gagné, mais Tess a gagné dans nos cœurs, pour le coup.
Alors, c'était un des éléments que je voulais voir, moi. Justement, le fait qu'elle ait fait cette figure avant les Jeux, est-ce que ce n'était pas une petite erreur? Évidemment, c'est hyper facile à dire après. Et puis, nous, on est focalisé sur les Jeux, mais les X Games, c'est un énorme événement aussi. Mais est-ce que dans l'optique de l'or olympique, finalement, elle n'aurait peut-être pas dû cacher un peu plus son jeu, Tess, ou est-ce que ça aurait été trop dangereux de le garder aussi, peut-être pour les Jeux? C'est peut-être ce qu'elle s'est dit aussi.
Alors oui, c'est peut-être le cas. En effet, c'est vrai qu'on voit souvent les athlètes garder les figures qu'ils ont dans leur sac, qu'ils ont un peu en cachette jusqu'au moment T, enfin au jour J. Et là, en effet, on peut se poser la question. Après, je pense que Tess, elle avait besoin de se rassurer aux X Games, de poser cette figure en compétition pour se mettre en confiance et se dire « c'est bon, je l'ai, je vais la replaquer lors des JO », qui est aussi le deuxième un peu plus gros événement pour elle cette année. Donc voilà, après, c'est sûr que peut-être que si elle avait gardé un peu dans son sac, la chinoise Eileen Gu n'aurait peut-être pas tenté, aurait peut-être pas eu en tout cas le temps d'y réfléchir, le temps de visualiser un peu cette figure. Et, Et voilà, c'est comme ça. Après, je pense que Tess, elle a tout bien fait pour le coup. C'était un bon choix, en tout cas, de le tester un petit peu avant pour être sûr, parce que les conditions d'entraînement et de compétition sont jamais les mêmes. C'est vrai que c'est pas la même pression et je pense qu'elle avait besoin de se rassurer et se dire, OK, sous la pression, je sais le faire et je peux le faire.
On ne peut pas imaginer que la chinoise Eileen Gu n'ait pas travaillé des semaines, des mois avant. On ne sort pas comme ça un trix aussi difficile en finale olympique quand même.
Eh bien, c'est sûr, c'est vrai. Alors après, ça arrive quand on est sous les feux des projecteurs avec une énorme pression comme ça, quand on a vraiment le goût de la gagne, quand on voit une athlète qui est juste devant nous, qui a à peu près le même niveau que soi, eh ben, on se dit, OK, c'est possible, il suffit de finalement pas grand-chose. Je pense que là, elle a eu quand même peut-être, même si elle n'avait pas testé en entraînement, 2 semaines pour le visualiser. Et Dieu sait que la visualisation, ça fait quand même énormément, même si on ne teste pas sur les skis. Et souvent, eh ben, c'est étrange à dire, mais souvent, les premières fois, quand on les essaye, on y arrive. Plus que les deuxièmes, troisièmes, quatrièmes fois, avant de répéter la figure et de vraiment l'avoir dans son sac.
Il faudrait lui demander pour savoir, pour en avoir le cœur net.
Ouais, je vais me renseigner.
Julien ?
Oui, j'avais une question. On a vu que Tess n'a pas voulu retenter son double corps que 1620 lors du troisième saut, mais est-ce qu'il n'y avait pas moyen de l'améliorer pour gratter le petit point qui lui manquait par rapport à son premier saut ?
Alors justement, j'en ai parlé un peu avec son coach. C'est vrai qu'à leurs yeux, il était plus facile de venir améliorer le switch 1440 que le double cork 1620 qui était déjà énorme et quasiment parfait. Et du coup, c'est pour ça qu'ils avaient en tête vraiment de venir améliorer le switch 1440 en mettant un double grab, donc une difficulté en plus par rapport au premier run pour grappiller ces petits quelques points qui manquaient. Donc, c'était plus facile pour elle d'améliorer en tout cas le switch 1440.
Et objectivement… Pardon.
Non, vas-y, Julien.
Quand on compare les deux sauts, donc les mêmes sauts entre la chinoise et Tess, est-ce qu'ils valent vraiment la même note ou la difficulté imposée par Tess était un poil supérieur à celle de la chinoise ?
Alors, j'ai vraiment du mal à me détacher un peu de ce que je me dis. C'est vrai que, un peu aux yeux de tout le monde, j'en ai parlé aussi avec une amie à moi qui, elle, vient du halfpipe mais qui fait du ski. Et je lui ai demandé, est-ce qu'un switch 1440 ne serait pas plus compliqué qu'un 1440 ? Et elle m'a répondu, si, en effet. Donc, si, je pense que c'est une difficulté en plus, on part en switch, on ratterrit en switch, donc à l'envers, puis à l'envers. C'est sur un big air, en tout cas, sur une structure comme ça, c'est une difficulté en plus, vraiment. Et c'est pour ça que maintenant, ça s'est joué sur d'autres petits critères, notamment ce petit grab tenu peut-être une demi-seconde de plus, mais…
Voilà. Ce petit grab, c'est effectivement Charlie Royer, le juge français de l'épreuve avec qui tu as échangé. Et Martin Mosnier, journaliste aussi à la rédaction d'Eurosport, a pu s'entretenir au téléphone avec lui. Il lui a expliqué ça. Il lui a dit, Tess relâche un tout petit peu trop tôt son Japan. Eileen est plus propre. C'est pour ça qu'elle prend 0,75 points de plus. Donc voilà, ça joue vraiment. Et 0,75 points sur une note sur 100, c'est rien. On est vraiment dans l'infinitésimal. C'est du détail, quoi.
Ouais, ça aurait vraiment pu être l'une comme l'autre. Sincèrement, c'est vraiment pas grand-chose. Et je pense qu'hier, que ce soit Eileen ou Tess qui prennent la tête, c'est vraiment finalement un peu la même chose. Il faut départager les deux athlètes. Je pense que si les juges avaient pu donner l'or aux deux, ils l'auraient fait pour l'exploit qu'elles ont réalisé toutes les deux.
On se projette un peu sur la suite. Laurent, c'est le slopestyle ?
Oui, le slopestyle. Est-ce que tu penses que si on doit comparer les deux épreuves, est-ce qu'il y a une épreuve où Tess est encore un peu plus forte que dans l'autre, ou est-ce que pour elle c'était vraiment deux titres possibles? Est-ce que, dans quelle mesure tu penses que ça peut éventuellement l'affecter d'avoir raté l'or, ou au contraire lui donner encore plus envie d'aller le chercher en slopestyle?
Alors, très bonne question, mais c'est vrai que je pense que Tess, elle s'est rassurée il y a 2 semaines en remportant l'or au X Games sur les deux disciplines. Je trouve que Tess est beaucoup plus régulière sur du slopestyle, pour le coup. C'est vrai qu'elle a un mental d'acier, vraiment. Le slopestyle, c'est encore plus difficile parce que vraiment, la moindre erreur, elle coûte très cher. C'est-à-dire que il y a à peu près 7 modules. Une simple erreur, vraiment une mauvaise réception sur un rail ou sur un saut, vraiment, on peut coûter la victoire. Et je pense que Tess, pour ça, elle a les épaules et je pense qu'elle attend le slopestyle avec impatience. Alors, je ne pense pas que ça l'ait peiné. On l'a vu hier vite changer, vite reprendre ses esprits une heure après. Alors, c'est vrai que sur le coup, quand on la voit déçue, lâcher ses larmes, comme elle dit, de pression, eh ben, on se dit, mince, peut-être que ça peut lui mettre un petit coup, peut-être que ça peut toucher sa confiance. Et finalement, voilà, je pense qu'elle est entourée par un staff de dingue. Elle a un coach extraordinaire, elle a un kiné extraordinaire, elle a un groupe, des athlètes avec qui elle s'entraîne vraiment extraordinaire. Et je pense qu'elle va avoir le goût de la revanche très, très fort, à mon avis.
Et bon, on suivra ça sur les antennes d'Eurosport. Avec toi au commentaire, j'imagine, une fois de plus.
Et non, malheureusement, ça tourne en même temps que des épreuves de snowboard. Donc, je donne ma place à Robin Lijon, mais qui le fera très bien aussi, je pense. Bah,
écoute, avec plaisir, il viendra nous expliquer tout ça. Puis, on suivra les autres épreuves également. Merci, Clémence. On va passer aux chiffres du jour. Le chiffre du jour à présent, il concerne Michaela Schifrin, alignée mercredi dans l'épreuve de slalom. Michaela Schifrin peut devenir la première skieur et skieuse confondue à remporter 6 épreuves de slalom, JO et mondiaux confondus. Pour l'instant, elle partage cette statistique avec l'Allemande Christel Granz, une skieuse allemande des années 30. Laurent, Michaela Schifrin a-t-elle les moyens d'aller chercher ce record?
Les moyens, oui. Elle est une des grandes favorites du slalom. Après, elle a pris une grosse claque quand même lors du géant où elle était également une des grandes favorites. Donc après, on sait, c'est une très très grande championne et je pense qu'elle peut. L'avantage, c'est qu'elle a pas trop de temps pour gamberger. C'est peut-être pas plus mal pour elle. Le slalom vient très vite après le géant et c'est peut-être mieux. Donc oui, elle sera vraiment une des grandes candidates au titre olympique mercredi. Maintenant, le slalom, c'est aussi une épreuve qui ne pardonne pas. On le sait, hein, la moindre petite faute et tout peut s'envoler. Il y a un autre enjeu pour elle, c'est qu'elle peut aussi rejoindre Vreni Schneider, qui est la seule slalomeuse dans l'histoire des Jeux à avoir gagné 2 fois la médaille d'or dans cette discipline. Ce serait un pas de plus dans la légende pour Michaela Schifrin. Elle y est déjà, de toute façon. Elle est double championne olympique. Elle a des dizaines de victoires en Coupe du Monde. Donc, c'est une très, très, très grande championne. Mais là, elle joue très gros après ce qui lui est arrivé quand même sur le géant.
Impressionné, Clémence, par ce genre de record de titres mondiaux et olympiques consécutifs?
Ouais, bien sûr, c'est sûr, ça donne envie quand même hein, d'en avoir autant, mais c'est pas le cas. Mais non, c'est impressionnant, c'est des athlètes de dingue de réussir à tenir la pression comme ça sur plusieurs gros événements d'affilée. Je trouve ça impressionnant et c'est vraiment une grande championne.
Julien, ton avis sur Michaela Schifrin t'impressionne aussi?
Forcément, pour revenir à cette histoire de record de 6 titres qu'elle peut égaler, c'est presque étonnant, regarde son palmarès en termes de victoires en Coupe du Monde et au Championnat du Monde, qu'elle n'ait pas déjà égalé ce record.
Même si elle Donc, elle peut dépasser ce record. Elle détient le record. Elle détient le record avec 5.
Elle détient, d'accord.
Elle pourrait le surpasser avec un 6e.
Oui, d'accord. Mais on peut presque s'étonner qu'elle n'ait pas déjà 2 titres olympiques au regard de sa domination de ces dernières années. Donc, ça serait dans la logique des choses qu'elle le détienne toute seule, puisqu'elle a déjà accompli par ailleurs. Après, oui, elle se partage les victoires depuis de nombreuses années déjà avec Petra Vlova, qui sera sa grande rivale. La bataille, elle va être magnifique. Les deux ont une revanche à prendre, comme Laurent l'a dit, après le géant. Mais clairement, on l'attend au tournant, Michaela. 2 titres olympiques, ça serait presque un strict minimum vu ce qu'elle a accompli jusqu'à présent.
Première manche du slalom à suivre à partir de 3h15 sur Eurosport et la deuxième à 6h45. On suivra ça, on verra si l'histoire est en marche. L'heure olympique, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous noter et à nous laisser un commentaire sur les différentes plateformes d'écoute. Abonnez-vous aussi, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Voilà, nous on se retrouve demain avec, on l'espère, 2 nouvelles médailles tricolores. Salut à tous.
Salut, salut.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.